Mesdames, messieurs, bonjour, vous êtes sur 48FM, il est 9h11. Nous avons subi un problème technique indépendant de notre volonté, veuillez nous en excuser. Ce journal vous est présenté par Mathéo Agro.
Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous dans l'actualité ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la télévision. Est-elle encore essentielle de nos jours avec la présence des réseaux sociaux? On fait le point avec Nicolas. Zoom sur la Black Friday Week qui bat son plein actuellement. À qui profite-t-elle réellement? Le MOOC ULG, un outil de plus en plus utilisé par l'Université de Liège. Quelles sont ses particularités? Benjamin nous les précise. Discipline peu connue, le Baseball 5 est mis à l'honneur avec notre invité Nicolas Avelange. Aujourd'hui, l'UNESCO célèbre la Journée mondiale de la télévision. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1996. Pour l'UNESCO, la télévision est le premier moyen de communication de l'information de masse et joue donc un véritable rôle de diffusion de cette information et de la connaissance. Même si à l'heure actuelle, la télévision est fortement concurrencée par les réseaux sociaux, Nicolas.
C'est effectivement ce qu'affirme Nathalie Malleux, journaliste et présentatrice du JT de la RTBF. Mais pour elle, cette concurrence n'est pas forcément une mauvaise chose puisque les médias reconnus et fiables sont aussi sur ces réseaux. L'important est donc de pouvoir trier le vrai du faux, ce qui est réalisé par les équipes du JT.
Vous savez que dans un journal télévisé comme une télévision qu'est la RTBF, dans un média qu'est la RTBF, vous avez derrière toute une équipe qui est effectivement allée vérifier et qui a fait un travail de fact-checking pour vous offrir cette information cohérente avec le recul, avec l'expérience, avec le regard critique. Là où dans des réseaux sociaux non signés, attention, je précise bien, mais dans les réseaux sociaux où tout un chacun improvise ce métier de journaliste ou de commentateur, là vous n'avez pas de certitude sur la fiabilité de l'information.
Même si le public du journal télévisé a diminué, dû aussi au fait que l'on peut retrouver les différents JT sur les plateformes numériques des médias, le journal reste l'un des grands rendez-vous de la télévision pour le grand public, car on y retrouve des séquences uniques.
On peut trouver des séquences dites un peu tendances, tout comme on peut trouver des séquences nostalgie dans un journal télévisé. Et puis, il y a l'actu qui, par essence, s'adresse à tous les publics, celle-là.
Pour Nathalie Malleux, la télévision a encore de belles années à venir dans le monde du journalisme, à condition qu'elle continue de collaborer avec les réseaux sociaux et autres plateformes numériques, comme c'est le cas actuellement.
Il est 9h14 et vous écoutez toujours 48FM.
Notre planète pourrait se réchauffer de près de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Selon l'ONU, les engagements climatiques actuels pris par les pays du monde entier ne permettent pas de contenir la hausse des températures. Le niveau du réchauffement est déjà trop élevé pour espérer en limiter les effets. D'ailleurs, l'année 2023 pourrait être la plus chaude jamais enregistrée selon les données de l'Observatoire européen Copernicus. À présent, zoom sur le Black Friday avec Guillaume et Cassandra.
Alors Mathéo, nous sommes partis hier à la rencontre de petits commerçants dans le centre-ville de Liège. Et il faut dire que le Black Friday n'est pas encore au centre de leurs préoccupations. Beaucoup d'entre eux attendent en fait le dernier moment pour décider s'ils feront ou non des promotions. D'autres attendent de voir ce que feront leurs voisins. Guillaume, une commerçante, nous a confié être obligée de suivre la tendance et mettra, elle, une petite série d'articles à moins 10% ce vendredi.
Oui, il semble que le Black Friday soit devenu une tendance inévitable, Cassandra. Pourtant, le moment est loin d'être opportun pour les petits commerçants. Nous avons cherché à savoir à qui le Black Friday profite. Nous avons donc demandé l'avis de Cécile Delcourt, docteur et professeur à HEC Liège.
Je pense que, de fait, on doit vraiment distinguer les grandes enseignes de plus petits commerces. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue calendrier, pour les petits commerces, en fait, le Black Friday tombe assez mal. Faire des soldes, ou en tout cas des grosses réductions fin novembre, alors que les Belges sont prêts à ouvrir leur portefeuille pour la Saint-Nicolas, c'est pas très opportun, en tout cas pour les petits commerces qui vont clairement avoir du mal à suivre.
Pour les grandes enseignes, en revanche, c'est une occasion idéale d'écouler les stocks avant le rush de la période des fêtes.
Pour une enseigne internationale, ce sera sans doute plus facile, on peut profiter de cet engouement du Black Friday pour peut-être écouler de fin de série, etc.
Les promotions garniront tout de même les vitrines ce vendredi. La tendance est bel et bien inévitable pour les petits commerçants qui tentent de s'accrocher dans cette course aux bonnes affaires.
Clairement, le consommateur peut vraiment s'attendre à ce que tous les commerces s'alignent, tous les commerces fassent des réductions, mais clairement, les petits commerces ne peuvent pas suivre, pas aussi bien, aussi fort que les grandes enseignes.
Merci Guillaume et merci Cassandra. Tout de suite, Benjamin nous explique ce que sont les MOOC, ces cours en ligne insolites mis en place par notre université.
Connaissez-vous les MOOC ? Fruit de la collaboration entre la plateforme française FunMOOC et l'Université de Liège, cela fait maintenant 8 ans que ces cours en ligne un peu particuliers sont à la disposition des étudiants, mais pas seulement. Pierre Martin, coordinateur du projet, nous en dit plus.
Les MOOC, ce sont des cours en ligne qui sont ouverts à tous. On peut faire la différence entre ces MOOC et les cours que les étudiants auxquels les étudiants vont pouvoir avoir accès sur la plateforme eCampus, qui eux sont des cours qui sont fermés, qui sont uniquement accessibles aux étudiants qui se sont inscrits à l'Université de Liège. Au niveau des MOOC, on cible toute une série de thématiques. Et vraiment, l'idée, c'est qu'ils puissent être ouverts à un large public. Il va y avoir plusieurs milliers d'apprenants en même temps qui suivent ce MOOC. Et chacun de ces projets est rattaché à un cours d'un enseignant et donc à une série d'étudiants de l'Université de Liège en même temps.
Depuis 2017, l'Université de Liège a finalisé 25 projets de MOOC, ouverts et accessibles à différentes périodes de l'année. Ceux-ci sont eux-mêmes divisés en plusieurs modules, autrement dit des chapitres, publiés sur la plateforme semaine par semaine. L'utilisateur a la possibilité de démarrer un MOOC quand il le souhaite, mais il peut également suivre les différents modules à son propre rythme. L'élaboration de ces cours en ligne demande bien évidemment un travail conséquent.
Grosso modo, la conception d'un MOOC va prendre plus ou moins 9 mois, c'est toujours un petit peu plus long parce que c'est 9 mois de travail intensif et les équipes avec lesquelles on travaille ne sont pas non-stop en train de préparer le projet, mais donc on va travailler pendant ce temps de travail, puis le MOOC va être disponible.
L'Uliège propose un panel de sujets de cours diversifiés et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, ce ne sont pas moins de 4 nouveaux projets qui ont été lancés lors de la rentrée de cette année. Ces nouveaux cours connaissent un certain succès, notamment le déchiffrage de hiéroglyphes égyptiens qui approche des 10 000 apprenants inscrits.
En bref, hier a eu lieu la cérémonie de remise des prix littéraires 2023 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces prix littéraires que l'on appellera désormais les Espiègles, en hommage au roman de Charles de Coster, La légende du Lenspiegel. Parmi les récompensés, on retrouve une liégeoise en la personne de Charlotte Bourlard, qui a reçu l'Espiègle de la première œuvre en langue française avec son roman L'apparence du vivant. Maintenant, place au sport. Lancé en 2017, le Baseball 5 est une discipline qui se veut être la forme urbaine du baseball. Un sport méconnu dont va nous parler notre invité. Bonjour Nicolas Avlange.
Bonjour.
Vous êtes le manager général de l'équipe nationale belge de Baseball 5. Quelles sont les spécificités de cette discipline ?
Donc en fait, le Baseball 5 a été lancé donc en 2017. Et en fait, les spécificités du sport, c'est simplement que c'est un sport qui se veut plus rapide que le baseball, donc au lieu d'avoir 3 heures, ça dure 20 minutes. Le terrain est beaucoup plus petit, donc ça permet d'avoir moins de matériel aussi, puisqu'il nous faut simplement une balle. Et au lieu de frapper la balle avec une batte et de la réceptionner avec un gant, on la frappe avec une main et on la rattrape avec ses mains aussi.
Ok. Et d'ailleurs, vous venez de réaliser un très beau parcours au championnat d'Europe, à la tête de la Belgique, en terminant 5e. Racontez-nous un peu cette expérience.
Donc en fait, le projet pour l'équipe senior a commencé l'année passée, fin février. Donc on a fait des try-outs qui étaient ouverts un peu à tous. On a vraiment voulu ouvrir ça au maximum de personnes possible dans la communauté belge de baseball et de softball. Puisque du coup, il y a le baseball et le softball qui est plus axé pour les femmes. Le Baseball 5 est en mix. Du coup, c'était vraiment ce qui était intéressant pour nous, c'est d'avoir un maximum de personnes. Et suite à ça, on a formé une équipe, donc on a sélectionné 16 personnes. On en a récupéré 8 au final. On est parti avec 7 parce que malheureusement on a eu une blessée juste avant. Et on est parti en Lituanie à Druskininkai, qui est difficile à prononcer. Mais c'est pour les championnats d'Europe donc qui avait lieu là-bas. Et on a fait une belle performance en faisant une 5e place. On n'est pas passé loin de la 3e ou de la 4e, mais cinquième place, franchement, c'est super.
Et cerise sur le gâteau, puisque vous avez été récompensé du titre All European Coach, c'est-à-dire le meilleur coach du championnat d'Europe. J'imagine que c'est une fierté pour vous.
Oui, maintenant, sans l'équipe que j'avais là-bas, ça aurait pas su être possible. Maintenant, je ne m'en suis pas réellement rendu compte qu'on me l'a donné, puisque j'étais plus dans l'engouement de la cinquième place et plus avec l'équipe. Maintenant, c'est vrai que quand on est rentré et que je me suis retrouvé entre guillemets seul ou avec ma famille, etc., ils m'ont dit « Ouais, waouh, c'est super, c'est un bon, c'est une belle performance. » Je me suis dit « Ouais, c'est quand même top d'avoir été jusque-là. »
Eh bien, merci d'être venu en studio, Nicolas. On vous souhaite autant de succès pour la suite.
Merci.
Dans le reste de l'actualité sportive, en football, on connaît de nouveaux qualifiés pour l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne, Nicolas.
L'Italie, la République tchèque et la Slovénie rejoindront notamment les Diables Rouges pour cet Euro. Les Italiens ont eu chaud en fin de match, mais obtiennent le match nul face à l'Ukraine, suffisant pour se qualifier. De son côté, la République tchèque s'est défaite assez aisément de la Moldavie 3-0. La Slovénie s'impose, elle, 2-1 contre le Kazakhstan.
Et en tennis, c'est le début du Final 8 de la Coupe Davis aujourd'hui.
Le Canada affronte la Finlande à partir de 16h. Les deux favoris de ce Final 8, la Serbie de Novak Djokovic et l'Italie de Yannick Sinner, joueront jeudi, respectivement contre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. La Belgique n'est-elle pas présente dans ce Final 8?
C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir écoutés. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouveau point sur l'actualité.